L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, nous avons le privilège de recevoir dans cette maison une grande femme de Dieu. Une femme de Dieu qui est déménagée au Burundi avec son époux, le pasteur Olivier Derain. Et puis, il y a plusieurs années, ils ont fondé un collège biblique là-bas que vous connaissez très bien ici, l'Institut biblique Enseigne-moi. Il y a 12 campus dans le monde. Et puis, par la suite, ils ont également fondé une église là-bas qui s'appelle El Shaddai. Donc, Dieu pourvoit. Amen. Et puis, vous allez rencontrer cette femme d'ici dans quelques instants. Et puis, j'aimerais juste vous inviter aujourd'hui à juste constater que nous sommes vraiment privilégiés de la recevoir dans cette maison pour nous apporter ce que le Seigneur lui a donné. C'est une femme de foi, une pionnière dans l'Évangile, dans le pays du Burundi. Et puis, nous avons le privilège ce matin de l'entendre et recevoir le don de Dieu que Dieu nous a envoyé ce matin. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter ce matin, pasteur Isabelle Derain. On peut l'accueillir chaleureusement. Amen. Soyez la bienvenue. Pasteur Isabelle. Amen. Gloire à Dieu. Bon matin, comme on dit en québécois. Bon matin.
Bonjour à tous. On dit comme ça en français. Et en kirundi, on dit Mwaramutsi. Voilà. En tout cas, je suis contente d'être ici. C'est une grâce de pouvoir être ici. Vous avez vraiment un merveilleux pasteur, je tiens à vous le dire. Un homme de Dieu qui vous aime vraiment. Et je suis reconnaissante pour l'occasion d'être ici avec vous, de partager la parole de Dieu. Donc, je pense que vous connaissez mon époux, le pasteur Olivier Derain, qui est déjà venu, je pense, prêcher ici plusieurs fois. Donc, moi, je suis son épouse. Je travaille dans l'église en tant que pasteur. On se partage quand même... le travail là-bas, je prêche aussi, j'enseigne à l'IBEM, je dirige aussi la louange quand je suis à l'église, donc voilà en gros ce qui se passe. On a 6 enfants, il y en a quelques-uns qui sont revenus, parce que il y a quelques années de cela, le Seigneur m'avait donné cette promesse, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, et je vois vraiment l'œuvre de Dieu dans le cœur des enfants qui ont grandi, parce que ce sont plus des enfants, l'aîné a 29 ans maintenant, et leur amour pour Dieu, leur engagement aussi dans l'œuvre de Dieu, et pour moi c'est vraiment une grande victoire, parce que ça sert à rien de gagner le monde entier si on perd sa famille, et nous n'avons perdu personne, donc je remercie le Seigneur pour ça, que ça puisse vous encourager aussi. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole de la part du Seigneur, pour vous aider, pour vous encourager. Et en fait, il y a dans la vie de tous les hommes des saisons, il y a parfois des moments qui sont un peu difficiles. Et ce qui est important, c'est de laisser à Dieu l'occasion d'être Dieu dans nos vies, de lui laisser la place. Parce que souvent, on veut aider Dieu, ou on essaye de dire à Dieu ce qu'il faut faire, alors qu'il sait mieux que nous. Et souvent, on perd du temps parce qu'on est en train de négocier avec Dieu. Il n'y a pas de négociation possible avec Dieu. Il faut le laisser être Dieu parce qu'il nous aime. Nous, on connaît certaines choses, on ne connaît pas toutes choses. Lui, il connaît toutes choses dans le passé, il connaît toutes choses dans le présent et il connaît toutes choses dans l'avenir. Parce que nous, dans l'avenir, on ne sait rien du tout. Et on doit apprendre à lui faire entièrement confiance, à marcher avec lui, à écouter sa voix et ne pas essayer de l'aider parce qu'il n'a pas besoin de notre aide. On a juste besoin de le laisser briller dans nos vies, briller au travers de nos vies et agir comme il en a envie. Parce que si nous sommes sur cette terre, eh bien, ce n'est pas pour vivre comme les gens du monde, parce que les gens du monde, ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Ils vivent au jour le jour. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils sont sur la terre, ils sont en train de penser, quand ils sont jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire comme études, quelle profession ils vont exercer. Aussi, ils se disent, il faut se marier parce qu'on veut pas rester seul. On va s'acheter une maison, on va avoir des enfants, on va en partir en vacances, et puis voilà, après, on va prendre notre retraite et tout sera fini. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon, c'est bien d'avoir toutes ces choses, mais c'est triste de n'avoir que ces choses et de ne vivre que pour ces choses. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour une seule raison, c'est pour porter Christ. C'est pour amener Christ à ce monde qui se perd. C'est être la lumière, une lumière dans ce monde, parce que Jésus est la lumière, mais nous sommes une lumière. Et en fait, quand on a ce cœur et cette vision, on sait qui on est, bien sûr, parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais on sait qui on est dans le sens où on sait qu'on est ici en mission, que le temps est compté, parce que les personnes qui sont un peu plus âgées parmi nous, vous rappelez, vous aviez 20 ans, c'était hier, vous aviez 10 ans, c'était avant-hier, et puis aujourd'hui, on est plus tout jeune, n'est-ce pas? Et moi, je fais partie des plus tout jeunes, parce que mes enfants sont grands, le plus jeune a 20 ans, le plus grand a 29 ans, donc vous voyez, je sais de quoi il s'agit aussi. Donc on voit le temps qui passe, et ce qu'il faut, c'est vraiment savoir qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des témoins du Seigneur, nous sommes ici pour accomplir une mission qu'il nous a confiée, et c'est une seule et même mission, mais confiée à l'Église, et chacun de l'Église, chaque membre a une contribution que le Seigneur veut qu'il donne, et c'est ça qui va vraiment donner un sens à nos vies, c'est ça qui va nous donner de la force, de la joie et une motivation pour aller de l'avant. Mais même à ce niveau-là, c'est important que Dieu soit Dieu, parce que sinon, si on avance par nos propres forces, même si on a une vision qui est juste et qui vient de Dieu, au bout d'un moment, on va se fatiguer. Parce que nos propres forces ne sont pas suffisantes. Donc, il est important que Dieu soit Dieu, qu'il ait toute la place, qu'il soit celui qui nous parle, qui nous inspire, qui nous encourage, qui nous console et qui nous montre aussi les choses que nous devons faire. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui nous sommes, ce que nous faisons et aussi où est-ce que nous allons. Parce que quand on a cette vision dans nos cœurs, quoi que ce soit que nous puissions traverser, eh bien, nous verrons au-delà des circonstances présentes, on verra au-delà des difficultés parfois qui peuvent être ici, on verra le Seigneur, on verra la gloire, on verra la victoire, on verra aussi la délivrance. Donc on va partager ce matin dans le psaume 23, parce que on va faire seulement trois points sur ce psaume. Vous pourrez méditer à la maison et réfléchir aussi à ce sujet. Donc le psaume 23, là, de quelle façon Dieu peut être Dieu dans nos vies? Parce que quand on dit oui, Dieu doit être Dieu dans nos vies, alors quand on a un petit peu un esprit religieux, on se dit, oh là là, ça va être difficile, je vais plus pouvoir respirer, je vais plus pouvoir vivre, je vais plus pouvoir être heureux, je vais être obligé de faire ci, obligé de faire ça. Eh bien, ça c'est pas la vie avec Dieu, ça c'est la vie dans le cadre d'une religion. Vous savez, la religion, c'est quelque chose qui nous étouffe, c'est quelque chose qui nous contrôle, qui nous empêche d'être nous-mêmes, alors que Dieu nous a créés. Amen. Dieu nous a créés, il nous a créés tous différents, il nous a créés avec des talents, avec une sensibilité, avec des aspirations, et en fait, la vie avec Dieu, c'est pouvoir exprimer ces choses, alors que la vie dans le cadre de la religion, c'est tu ne peux pas être toi-même, parce que si tu es toi-même, alors tu vas te faire remarquer, tu ne peux pas être toi-même, parce que ça ne va pas plaire à Dieu, donc c'est toujours une loi, une liste de choses, de lois que l'on doit faire, de principes que l'on doit appliquer, et on n'est jamais tranquille parce qu'on ne sait jamais si on a bien fait, si on a mal fait, on se sent toujours condamné, alors que quand Dieu est Dieu dans nos vies, c'est une vie de gloire, c'est une vie d'épanouissement, c'est une vie de joie, c'est une vie de relation, parce que nous les êtres humains, on a besoin de cette relation avec Dieu, et qu'il prenne sa place. Dieu n'est pas quelqu'un sur l'épaule de qui on peut t'en taper comme si c'était un ami avec qui on a été à l'école. On doit avoir bien sûr du respect et de la déférence pour lui, mais ce n'est pas pour autant quelqu'un qui est loin. Dieu n'est pas loin, il est proche. Il nous connaît, il nous comprend parce que c'est lui qui nous a créés. Et dans le psaume 23, on voit vraiment cette relation que le berger a avec les brebis, et c'est vraiment une image. Nous ne sommes pas des moutons, n'est-ce pas ? nous ne sommes pas des brebis, mais nous sommes des personnes qui ont besoin du Seigneur, parce que la brebis, c'est un il y a certaines caractéristiques dans la brebis qui correspondent un petit peu aux caractéristiques de l'homme. L'homme est facilement stressé. Et l'homme ne supporte pas le stress comme les brebis ne supportent pas le stress. Le berger est là pour calmer, pour rassurer les brebis. Les brebis ne sont pas capables de savoir où il faut aller. Si on laisse une brebis, là je parle des moutons, hein, si on laisse la brebis livrée à elle-même, elle va partir n'importe où, aller n'importe comment, elle risque de tomber dans une fosse ou se laisser accrocher par des buissons parce qu'elle a une grosse fourrure. Et quand il y a un loup ou un prédateur, elle ne saura pas le reconnaître et elle va se jeter dans la gueule du loup. Et ça, c'est un petit peu les caractéristiques de l'être humain. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Des fois, on se dit, je vais faire ci, je vais faire ça, et on ne sait même pas, on n'est même pas sûr que ça va marcher. Et quand on se retrouve dans des circonstances difficiles, on perd courage. On perd courage, on s'inquiète, on se sent très mal, et on peut facilement tomber dans des pièges. Mais gloire à Dieu, nous avons un berger. Un berger qui veut nous protéger, un berger qui veut nous montrer le chemin, un berger qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre une vie heureuse et épanouie. Et vivre une vie heureuse et épanouie, ce n'est pas vivre une vie tournée vers nous-mêmes. Vous savez, souvent les gens sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur bien-être. Ils essayent toujours d'améliorer leur confort. Et vivre dans le confort, c'est bien. Mais vous savez, il y a des gens qui vivent dans le confort et qui sont malheureux. Comme il y a des gens qui vivent sans confort et qui sont heureux parce que Jésus a pris la place du berger dans leur vie. Ils sont encouragés, ils sont protégés, ils sont soutenus, ils sont fortifiés et ils vivent pour lui. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre pour le Seigneur. C'est vraiment ce qui peut combler nos cœurs et combler nos vies. Comme on le dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur et ça, c'est une vérité. Et vous connaissez comme moi des gens dans le monde qui ont peu d'argent. Alors, quand ils sont pas sauvés, ils vont courir derrière l'argent. Ça va être leur motivation, courir derrière l'argent pour améliorer leur vie. Il y en a qui ont un peu plus d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent encore après l'argent parce que ils en ont jamais assez. Et après, il y a la dernière catégorie de personnes, ceux qui courent plus après l'argent parce qu'ils en ont tellement et qu'ils peuvent s'acheter, s'offrir tout ce qu'ils veulent, n'importe quel caprice, n'importe quelle fantaisie. Et ça, ce sont des personnes qui sont dans un grand danger. Parce qu'ils n'ont plus rien derrière quoi courir. Et c'est comme ça qu'on voit un certain nombre d'entre eux qui finissent par se suicider. Que vraiment le Seigneur ait la place dans nos vies. Lisons ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien dans aucun domaine. Ça, c'est quand on laisse la place à Dieu. Si vous manquez de quelque chose dans votre vie, c'est parce que dans ce domaine particulier, vous n'avez pas donné la place à Dieu. Il est notre berger, il nous aime, il veut prendre soin de nous. Et parfois on se dit, oh ben, Seigneur, je ne veux pas te laisser t'occuper de ça, je ne veux pas te déranger avec ça. Vous savez, Dieu, on ne le dérange pas. Amen. Il y a vraiment un équilibre, on doit comprendre que d'abord, Dieu nous aime et qu'on ne le dérange pas. Ça, c'est le premier domaine. Et il y a l'autre domaine des personnes qui prennent Dieu pour leur domestique ou pour, qui prennent Dieu pour un distributeur. Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça, Dieu, ceci, Dieu, cela. Et entre les deux extrêmes, il y a vraiment un équilibre. Et dans le Seigneur, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque pour ta vie affective. Il n'y a pas de manque pour tes finances. Il n'y a pas de manque pour ta santé. Il n'y a pas de manque par rapport aux choses que Dieu veut que tu fasses. Parce que, vous savez, Dieu est juste, il ne va pas nous demander de faire quelque chose sans nous donner la provision nécessaire pour le faire. Et bien souvent, il y a des gens qui se disent, oui, Dieu veut que je fasse ci, mais je n'ai pas la provision pour le faire, donc je vais attendre la provision et après je vais le faire. Ça, c'est le contraire de la marche par la foi. Si Dieu te montre quelque chose, fais un premier pas et tu verras la provision là, juste devant toi, et tu pourras vraiment mettre en pratique ou faire accomplir ce que Dieu te montre, parce qu'il est un Dieu de provision. Il pourvoit à nos besoins dans tous les domaines. Et quand il nous appelle quelque part ou quand il nous demande quelque chose, ne regardez pas, oh ça c'est vraiment difficile, Parce que, je vous donne un exemple, nous on est partis en Afrique alors qu'on vivait aux États-Unis. On a passé 3 ans aux États-Unis et la vie est aussi agréable et confortable qu'ici, n'est-ce pas ? C'est à peu près la même chose, à quelques différences près. Et c'est un endroit où il fait bon vivre, surtout quand on est dans une ville où il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de grands ministères. Nous étions à Tulsa, au Oklahoma, pour faire nos études bibliques. Et le Seigneur nous envoie en Afrique, dans un endroit où il fait pas forcément bon vivre, parce que c'était en pleine guerre, dans un endroit où la vie n'est pas vraiment confortable parce que il y a pas d'électricité. Je me rappelle la première année, on est resté 3 semaines sans eau. Il y avait pas d'eau. On devait boire des, comme vous appelez ici, des liqueurs. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, même dans le robinet. Et heureusement, c'était la saison des pluies. Alors, quand on attendait, il pleuvait vers 17h, on attendait là avec des seaux et des bassines que l'eau tombe sur pour récupérer du toit. Sinon, on pouvait même pas laver la maison, laver la vaisselle ou prendre des douches. Vous voyez, c'était assez bizarre, assez... ça sortait presque d'un film. Et différentes choses comme ça. Différentes choses comme ça, il y avait vraiment un changement complet. Mais quand on est en train de marcher dans ce que Dieu veut, il nous donne une grâce spéciale. Parce que au début, on se dit, moi, je ne pourrais pas faire ça parce que c'est au-delà de mes forces. Je ne pourrais pas faire ça parce que ça ne correspond pas à ma personnalité. Je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça parce que c'est trop difficile. Eh bien, je vais vous dire une chose, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et il est fidèle pour le faire, il est fidèle pour te fortifier, il est fidèle pour te donner la grâce de passer au travers ces choses et de dire, mais tout ça c'est rien, c'est pas grave, parce que Dieu est mon Père et parce que Dieu pourvoit, il est ma provision. Lisons ensemble dans Romains chapitre 8, puisqu'on parle de la provision de nos besoins, il faut savoir comment la trouver et surtout comment la saisir. Amen. Parce qu'il y a des promesses, et c'est bien de dire qu'il y a des promesses, mais c'est savoir aussi comment rentrer dans ces choses et comment les voir dans nos vies. On va lire à versets 31 et 32. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Et là, comme on parle du manque, on parle des difficultés, je voudrais que vous puissiez prendre ce verset et le mettre exactement dans votre vie et dans votre situation, parce que il arrive parfois dans la vie que on ait des choses qui sont difficiles, qui brisent le cœur, on ne sait même pas quoi faire devant ces choses. Mais ici, prends ce verset et mets-le vraiment au centre de la situation et il va produire du fruit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Non pas quelque chose, non pas certaines choses, parce que la religion limite toujours. La religion dit, bon, si tu as le minimum, contente-toi du minimum. Dieu est un Dieu de provision, Dieu est un Dieu d'abondance, Dieu est un Dieu de grâce, non pas pour satisfaire notre convoitise, mais pour nous donner les moyens de réaliser toutes les choses qu'il a prévues et de faire exactement ce que nous devons faire et même au-delà. Il est le Dieu qui donne pour que nous ayons de quoi donner et faire la volonté de Dieu, que nous soyons dans l'abondance et qu'il y ait des restes. Rappelez-vous dans Jean chapitre 6, Jésus était avec la foule. Il était avec une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants. Et il était tard et ces gens-là avaient faim. Et Jésus a dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Et on a dit, un petit garçon, il a cinq pains et quelques poissons. Et Jésus a multiplié. Il a pourvu à tous les besoins de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il est resté après? 12 paniers pleins. 12 corbeilles. Dieu n'est pas le Dieu qui va te donner juste le nécessaire. Parce que quand on est dans cette mentalité, on est dans la mentalité du désert. Et quand on est dans la mentalité du désert, on ne va pas avoir suffisamment, et on n'aura pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Il est celui de l'abondance et de la surabondance. Donc si Dieu est pour toi, qui peut bien être contre toi? Est-ce que ce sont les circonstances? Est-ce que c'est le diable? Vous savez, le diable, il ne peut rien nous faire, il est vaincu. Il est sous nos pieds. Il est vaincu. La seule personne qui peut te faire du mal, c'est toi-même. Parce que tu manques de compréhension, parce que tu manques de connaissance, parce que tu ne sais pas comment appliquer la parole de Dieu. Et de ce fait, le diable va utiliser ton manque de compréhension, ton manque de connaissance pour amener des circonstances dans lesquelles tu ne vas pas savoir comment t'en sortir. Mais à la base, Dieu a pourvu. Il nous a tout donné. Et moi, j'aime ce verset parce que il déclare l'amour du Père. Si Dieu a donné Jésus, qu'est-ce qu'il peut te donner de plus? Il a tout donné. Et en donnant Jésus, il a donné tout ce qui va avec. Donc, ouvrez vos yeux et ne regardez pas simplement, il a donné Jésus, donc je suis sauvé, si je meurs, je vais au ciel. Ça, c'est une vérité, mais ce n'est qu'une partie du paquet, si je peux me permettre de le dire ainsi. En donnant Jésus, il t'a donné tout ce qui contribue à ta vie sur cette terre, tout ce qui contribue à la piété, tout ce dont tu as besoin, comme le dit aussi Philippiens chapitre 4, un passage que tout le monde connaît. Philippiens chapitre 4, versets 19 et 20. Ici, on utilise souvent ce verset pour la provision financière, et c'est vraiment le contexte de ce verset, mais on peut l'utiliser dans n'importe quel domaine, quel que soit votre besoin de provision. Vous pouvez utiliser ce verset, parce que parfois, on ne sait pas comment faire. Des fois, on voit, surtout en Afrique, là où je vis, les gens ont des besoins. Et au lieu de chercher le Seigneur, ils se tournent vers les autres. Et les autres, ils peuvent peut-être... Vous savez ce qu'il y a avec les êtres humains? Parfois, ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Parfois, ils veulent et ils ne peuvent pas. Mais Dieu veut et il peut. Il veut et il peut. Et quand tu te tournes vers lui, bien, tu vas vraiment gagner du temps. Lisons ensemble le verset 19, Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et j'aimerais bien qu'on puisse répéter ensemble ce verset, mais au lieu de dire « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », vous allez dire « Mon Dieu pourvoira à tout mon besoin, à tous mes besoins ». Voilà, on y va ensemble. « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Amen. Parce qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il a donné Jésus, il a donné tout ce qui va avec. Et parce qu'il est Dieu et qu'il est fidèle, il pourvoira à tous tes besoins. Et je vous assure, quand on sait que Dieu pourvoit à tous nos besoins, mais on se sent en sécurité. On se sent en sécurité quand on sait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Ne permettez pas au diable d'amener dans vos vies la crainte, l'inquiétude, l'incertitude, la dépression et tout ce qui va avec. Parce que toutes ces choses appartiennent au royaume des ténèbres. Nous qui sommes en Christ, nous avons la justice, la paix, la joie, la provision, l'amour, la grâce. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à nous. C'est à nous, c'est à vous, c'est à chacun d'entre nous. Donc, il pourvoit à tous nos besoins. Donc, il y a une vérité dans toutes ces choses, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Mais il faut savoir une chose, c'est que entre la vérité qui se trouve ici de ce que Dieu a fait, ce qu'il a donné et ce qu'il a accompli, et la réalité de nos vies qui se trouve ici, eh bien, il y a un petit chemin à faire. Il y a un petit chemin à faire. Et c'est nous qui pouvons faire en sorte que la vérité devienne la réalité. Alors, comment on va faire pour que la vérité de la parole de Dieu devienne une réalité dans notre vie? Eh bien, c'est par le travail de notre quoi? Est-ce que c'est par le travail de nos prières? Voilà. Merci. C'est par le travail de notre foi. Parce que la vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, voyez. Et dans le fait que Dieu a donné Jésus, le salut est potentiel pour tous les hommes. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que cette idée devienne une réalité? C'est le fait que quelqu'un va mettre sa confiance dans cette parole. Il va croire dans son cœur et il va le confesser de sa bouche. Donc la vérité du salut qui est ici va devenir une réalité dans sa vie parce qu'il aura fait le pas, quelques pas de foi. Vous savez, les choses difficiles, c'est le Seigneur qui les a faites. Nous, on ne pouvait pas les faire. C'est lui qui a fait les choses difficiles. C'est lui qui est mort pour le pardon de nos péchés. C'est lui qui a tout accompli. Nous, nous avons juste à croire et à recevoir. Et recevoir, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Amen. Donc, pour que la vérité devienne une réalité, il y a le pas de notre foi. On va lire ensemble. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de voir la vérité de la provision se manifester dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les hommes, quand nous nous retrouvons face à un problème, bon, quand c'est un petit problème, on n'y prête pas trop attention, mais il y a des choses qui peuvent vraiment nous affecter profondément dans notre âme, qui peuvent nous blesser, qui peuvent amener parfois de la crainte ou de l'inquiétude. Qu'est-ce que l'on fait d'une manière générale? On va parler. On va parler du problème, on va s'auto-apitoyer sur nous-mêmes en se disant oh, « qu'est-ce qui m'arrive? Je suis vraiment quelqu'un de malheureux, je suis quelqu'un qui souffre » et on essaye d'attirer la compassion de Dieu sur nos vies. Ça, c'est pas la peine. Dieu nous aime. Il a de la compassion pour nous. Et on essaye parfois aussi d'attirer la compassion des autres. Parce que quand on se sent émotionnellement déstabilisé, eh bien, on a besoin que quelqu'un nous aime. On a besoin que quelqu'un nous tende la main. Et l'erreur que l'on fait bien souvent, c'est qu'on est en train de parler du problème. La foi, ce n'est pas parler du problème. La foi, c'est de parler à notre problème. Comme le dit l'évangile de Marc, on va pas le lire, vous connaissez ce passage, chapitre 11, versets 22, 23 et 24, où Jésus enseigne ses disciples, il lui dit, il leur dit, si vous parlez à cette montagne et vous lui dites, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, elle est obligée de vous obéir. Donc, voyez, si on veut voir la manifestation de la provision et la transformation de nos situations, nous ne devons plus parler de nos problèmes, mais nous devons parler à nos problèmes. Et c'est là qu'il faut permettre au Seigneur d'être Dieu dans nos vies afin qu'il comble notre cœur. Parce que quand ton cœur est comblé, eh bien, tu n'es plus dans ce sentiment d'inquiétude, tu n'es plus déstabilisé, tu n'es plus dans l'incertitude. Parce que, vous savez, c'est très facile de dire, oui, tu te laisses aller. C'est très facile de dire ça à quelqu'un. Mais quelqu'un qui se laisse aller ou quelqu'un qui est déprimé, c'est parce qu'il souffre. Tout simplement, c'est comme si on parlait à quelqu'un qui est malade, qui, je ne sais pas, qui souffre d'une maladie douloureuse et on va lui rendre visite et on dit, bon, je vais prier pour toi au nom de Jésus, tu vas être guéri. Et la personne est là, ah, en train de souffrir. C'est comme si on était en train de lui reprocher, mais arrête de gémir. Est-ce que qui que ce soit peut reprocher à quelqu'un de malade de gémir? Personne ne peut lui reprocher, ça serait vraiment un manque d'amour phénoménal. Et on pourrait pas lui dire à la personne, mais arrête de gémir là, tu marches dans la foi, ressaisis-toi. Quand on fait ça, on manquerait vraiment d'amour, ça serait honteux, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui souffre dans le domaine de son âme et de ses émotions, il se retrouve dans la même situation. Donc on n'a pas besoin de le bousculer ou de lui dire mais quand même tu exagères, parce que nous sommes tous différents les uns des autres Il y a des choses qui peuvent vous affecter et moi, ça me fera rien du tout. Comme il y a des choses qui peuvent moi m'affecter et m'affecter profondément et vous allez vous dire, mais moi, si je passe au travers de ça, ça me fera rien du tout. Donc, on ne doit pas juger les personnes, ni les choses qui font mal ou les choses qui ne font pas mal, parce que là, on est en train de perdre son temps et on n'est pas en train de régler le problème. Ce qu'il faut, c'est que ce soit dans le domaine, tout à l'heure on parlait de la maladie, ou dans le domaine des difficultés, il faut donner la place à Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses, je te donne la place dans mon cœur pour que tu sois vraiment le Dieu Tout-Puissant qui va agir au travers de mes paroles. Seigneur, tu es celui qui va me consoler, tu es celui qui va me soutenir. Et je vous assure que quand on vit dans cette relation avec Dieu et qu'on s'approche de lui, Dieu, tu es Dieu dans ma vie, tu es mon berger, tu m'as créé, tu sais de quoi je suis fait, tu sais de quoi j'ai besoin, tu prends la place parce que moi, ces choses-là, je suis pas capable de m'en occuper. Eh bien, quand on laisse cette place à Dieu, eh bien, c'est là où on va pouvoir parler aux choses. Parce que quand on est dans la tempête et qu'on est dans on est dehors, eh bien, c'est terrible. Moi, c'est la première fois que je viens au Canada, mais j'imagine que des fois, l'hiver, ça doit pas être facile. Quand il y a des tempêtes de neige, où est-ce que tu as besoin d'être? À l'intérieur, bien au chaud, avec une tasse de chocolat ou de thé. Parce que ça va te réconforter. Et Dieu veut que tu sois réconforté. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et c'est là que, quand tu sais que Dieu est ton Père, tu vas lui permettre d'être Dieu dans ta vie. Et tu vas lui dire, Seigneur, je viens à toi. Ça sert à rien de gémir, comme je vous le disais. Ça sert à rien de se lamenter, parce que Dieu ne siège pas au milieu de nos gémissements ni de nos lamentations. Il siège au milieu de nos louanges. Donc, on le laisse prendre la place, on le laisse toucher nos vies, on le laisse nous consoler. Et c'est là qu'on va pouvoir nous tenir dans cette position où on va pouvoir parler aux choses. Parce que ça nous affectera plus. Tant qu'on est affecté dans notre cœur, on peut pas parler à grand chose, à quoi que ce soit d'ailleurs. N'est-ce pas? Tout est une question de relation avec Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est bon et il veut agir. On va lire ensemble dans Hébreux chapitre 6, verset 12, une autre chose par rapport à la foi qui est vraiment important si on veut voir la provision de Dieu dans les domaines de notre vie. Donc, Hébreux chapitre 6, verset 12. Vous savez, nous vivons dans les derniers temps et on ne sait pas vraiment quand Jésus va revenir, donc je ne vais pas vous dire que Jésus va revenir la semaine prochaine parce que ça serait pas vrai. Ou ça serait peut-être vrai, de toute façon, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, nous vivons dans les derniers temps, parce que depuis que l'Église est née avec la résurrection de Jésus, nous sommes dans les derniers temps, n'est-ce pas? Nous sommes le temps de l'Église, ce sont les derniers temps. Et moi, vraiment, je remercie le Seigneur, parce que les choses, pour nous, elles sont faciles. Vous allez me dire comment elles sont faciles. Elles sont faciles parce que aujourd'hui nous avons cette parole. Et dans cette parole, on peut voir la vie d'autres personnes qui n'avaient pas cette parole. Regardez par exemple Job. Job, il a vécu à peu près à la même époque qu'Abraham. Il avait quelle Bible pour l'aider? Il n'en avait pas. Il avait quels exemples pour l'inspirer? Il n'en avait pas. Nous avons beaucoup d'exemples, tous les héros de la foi. Nous avons l'exemple de Jésus qui a marché d'une façon extraordinaire. Nous avons l'exemple de Pierre, Jacques, Jean, Paul, etc. Et tous aussi ces héros de la foi du siècle dernier, comme Oral Roberts, comme Kenneth Hagin, pour vous donner des noms, et bien d'autres encore, parce que la liste est très longue, et on peut vraiment s'inspirer de ces personnes-là. C'est d'ailleurs ce qu'il est dit dans ce verset. On va lire verset 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Et en fait, ça, c'est vraiment la maladie un petit peu de notre société et de notre époque. Les gens se découragent tellement vite. Les gens se relâchent tellement vite. Donc, pour les Canadiens, je n'en sais trop rien parce que je les connais pas bien. Mais je le vois ailleurs, je le vois en Afrique, je le vois en France. J'ai une de mes filles, la dernière de mes filles, qui fait des études de médecine. Mais c'est, vous savez, je sais pas comment ça se passe ici, mais en France, c'est vraiment difficile. Il y a 1400 étudiants en première année. Il y en a 200 qui sont pris. Ah oui? Ça plaisante pas. Alors c'est beaucoup de pression, c'est aussi beaucoup de travail. On exige pratiquement que leur tête devienne une encyclopédie en 6 mois de temps. C'est très difficile. Et je sais que bien souvent les étudiants vont échouer la première année. D'ailleurs, ce qui a été son cas, ils refont la deuxième année, ils refont encore une année. Et après, s'ils réussissent, après les choses vont quand même un peu mieux. Et nous, avec mon mari, on était vraiment derrière elle. Elle voulait pas refaire parce que c'était tellement difficile déjà changer de pays parce qu'elle vivait avec nous en Afrique. Elle a dû aller en France, vivre là avec un changement de climat, changement de nourriture, changement de coutumes, changement de tout. Et en plus avec des études très difficiles. Elle voulait pas reprendre l'année. Elle dit non, je veux faire autre chose. Et on lui a dit non, tu vas refaire l'année. Tu vas refaire l'année. Non pas parce qu'on veut absolument qu'elle fasse médecine, non pas parce qu'on veut lui faire du mal, mais parce qu'on ne veut pas que 5 ans ou 10 ans après, elle ait des regrets. Parce que vous savez, des fois, quand c'est trop difficile, on a tendance à se relâcher et se dire, non, je veux faire autre chose. Sauf que après, 5 ans après ou 10 ans après, on va regretter. Et moi, je lui dis, tu vas refaire l'année, et si tu échoues, là, tu feras autre chose. Mais au moins, t'auras pas de regrets. Et quand, je veux que tu apprennes, c'est que quand tu commences à faire quelque chose, tu dois le faire jusqu'au bout. Et il y avait tellement de jeunes de son âge qui s'étaient lancés soit dans ses études ou soit dans d'autres qui sont même pas si difficiles que ça, qui ont abandonné en disant, oh non, c'est difficile, alors je vais faire autre chose. Nous devons être des hommes, et quand je dis des hommes, je m'adresse aussi bien aux messieurs qu'aux dames. Parce que en Christ, il n'y a ni homme ni femme, nous devons être forts. Nous devons être de ceux qui disent, j'aurai le dernier mot, quoi qu'il en soit. Et quand tu dis, quand tu fais ce genre de déclaration, Dieu est derrière toi. Parce que est-ce qu'on peut supposer un instant que Dieu ne va pas avoir le dernier mot? Moi, je sais que Dieu doit avoir le dernier mot dans toutes les choses qui concernent bien sûr l'humanité, et on va le voir parce que ça dépend pas de nous. Il a vaincu le diable et ça dépendait pas de nous. Jésus revient et ça dépend pas de nous, et tous ses ennemis vont être détruits et ça dépend toujours pas de nous. Et les cieux et la terre vont être recréés, et ça dépend pas de nous. Et on vivra avec lui sur cette terre pour toujours, et ça dépend pas de nous. Maintenant, il y a des choses qui dépendent de nous. Ne décevons pas le Seigneur. Soyons fermes, soyons courageux. Faut pas se laisser bercer par la vie. Faut pas se dire, moi j'ai besoin vraiment de dormir dans un lit de marshmallows. Où c'est bien mou. Où c'est bien confortable. Non, nous devons apprendre à nous secouer. On doit apprécier, comprenez-moi bien, la vie. On doit apprécier le confort de la vie parce que la société a vraiment évolué de manière à ce que la vie est vraiment agréable, n'est-ce pas? On doit l'apprécier, mais il faut pas permettre à ce que ce confort et cette vie nous enferment dans une prison et nous rendent mous. Soyez fermes, soyez courageux, soyons comme ceux qui ne se relâchent pas et qui imitent ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et là, pour obtenir cette force, parce que ça demande de la force, faut être clair. Mais cette force, où est-ce que tu vas la trouver? Dans le Seigneur. Nos forces à nous seront insuffisantes. Et quand on comprend que nos forces seront insuffisantes, on ne sera jamais sous un sentiment de condamnation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous un sentiment de condamnation, alors que Romains chapitre 8 verset 1 dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, si tu te dis, je n'y arrive pas et je ne suis pas arrivée, alors je ne vaux rien, je ne suis rien. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Et il y a l'autre extrême encore qui dit, je n'y suis pas arrivée. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est pas grave. Mais faut pas non plus laisser tomber, faut pas avoir ce genre d'attitude. Encore une fois, il faut replacer Dieu dans ta vie, il faut lui donner la place. Dire, Seigneur, je veux que tu sois toute ma vie, que tu sois ma force, que tu sois ma source, que tu sois mon inspiration. Parce que si Dieu est vraiment Dieu dans ta vie, tu auras la force de persévérer. D'abord, il faut le vouloir. Et c'est pour ça que je vous ai un petit peu motivé dans ce sens-là, en disant, la société nous amène vraiment au renoncement des efforts, au laisser aller. Donc ça, j'ai voulu mettre en vous le désir de le faire, parce que si on n'a pas ce désir, on ne pourra pas puiser dans le Seigneur. Mais d'un autre côté, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Nous n'en sommes pas capables. Et faut être clair, il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres, comme il y a des personnes qui sont plus grands que d'autres. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus maigres. Ça, c'est les hommes, on n'a pas vraiment choisi notre constitution. Mais par contre, on peut choisir de mettre Dieu au centre de notre vie et qu'il nous donne la force de persévérer afin de voir la manifestation de la promesse. Donc c'est par la foi, donc ce que nous disons, et là aussi pour pouvoir marcher dans la foi, faut que Dieu soit au centre de notre vie, parce que la foi c'est pas une recette de cuisine. La foi c'est ce qui découle de la parole de Dieu et de notre relation avec Dieu. La foi et la persévérance qui vont permettre la manifestation de la provision. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la vérité et c'est ce que nous devons dire. Mais maintenant, pour que cette vérité devienne une réalité, nous avons un chemin à parcourir. Amen. On va voir le deuxième point de ce psaume 23. Et ce deuxième point nous parle du repos. Donc on va revenir dans ce psaume, psaume 23. Vous savez, le Seigneur nous appelle à vivre une vie heureuse. Une vie épanouie, et le but de cette vie épanouie, c'est pas juste pour que nous nous sentions bien, mais c'est pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande, en opposition avec les gens qui sont du monde, qui n'ont pas une vie heureuse et épanouie. Il faut que nous leur fassions envie. Il faut que les gens qui ne sont pas sauvés puissent venir nous voir en disant, mais toi, ce que tu as, moi, je le veux. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, on commence vraiment à voir au Burundi. Des fois, les gens arrêtent d'autres dans la vie, dans la ville, parce qu'on fait beaucoup d'évangélisation. Donc, ils arrêtent quelqu'un dans la rue, dit, toi, ce que tu as, je le veux. Vous savez, l'évangélisation, ça devrait même pas être un combat. Il suffit d'aller quelque part et il y a des ténèbres. Toi, tu es une lumière, tu te tiens là. Tu te tiens là au nom de Jésus et tu vas attirer beaucoup de personnes. Ils vont te demander ce que tu as. Maintenant, si les chrétiens sont frustrés, si les chrétiens sont tristes, et des fois ça me fait rire, je partage un petit peu avec les gens, dire si tu dis. Parce qu'on le voit des fois au travers du groupe de louanges. Vous savez, des fois, les gens du groupe de louanges, bon, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs émotions, ceci, cela. Alors, mais pas ici, certainement pas. Comme je connais pas, je peux tout dire, il n'y a pas de problème. Alors, ils viennent, ils sont là. Alors, on doit aider les gens à rentrer dans la présence de Dieu. Alors, c'est vraiment très compliqué parce que c'est moi d'abord qui dois aider les gens du groupe de louanges à rentrer dans la présence de Dieu. Et ça prend au moins 30 minutes parce qu'ils commencent à chanter Lumière du monde. J'ai dit, mais vous êtes en train de mentir là? Non, non, non. Alors, on doit d'abord les aider 30 minutes à rentrer dans la présence de Dieu. Et après, une fois qu'ils sont à peu près réveillés, alors là, on peut vraiment commencer la louange. Je sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs, mon femme. Je sais vraiment plus pourquoi je disais ça. Enfin, en tout cas, une chose est sûre. On revient dans le texte. Dieu est un Dieu de repos. Il est un Dieu de repos. Alors, verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah oui, maintenant ça y est, je me souviens. Il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et quand Dieu est dans ta vie, eh bien, tu vas vivre dans le repos. Et ça, ça se voit. Ça se voit. Vous, vous êtes bénis ici, vous avez vraiment une vie où il n'y a pas trop de stress, où il y a de grands espaces. Vous savez qu'on a besoin d'espace pour respirer, n'est-ce pas? Moi, je vis au Burundi, il y a quand même de l'espace. C'est pas autant qu'ici, mais on n'est pas coincé comme ça. Je suis allée en France, mais c'était terrible. J'ai dormi dans un hôtel avant de prendre l'avion. La cabine de douche, elle devait faire 3 carreaux d'ici. Prends ta douche comme ça. C'est vraiment compliqué. On a besoin d'avoir ce qu'il faut pour respirer, n'est-ce pas? Donc Dieu est un Dieu de repos et il veut que nous vivions dans le repos. Et ce repos nous vient de lui. Si on est dans le stress, si on a une vie qui est complètement recroquevillée parce que on est en train d'essayer d'éviter les coups du diable, éviter les coups du patron, éviter les coups des enfants parce que les enfants ils savent nous faire des coups, n'est-ce pas? Hein? Et essayer d'éviter les coups de je ne sais quoi, eh bien, on n'est pas reposé. On est vraiment dans le stress. Vous savez, Dieu veut nous faciliter la vie. Il veut vous faciliter la vie pour que vous puissiez exprimer et retransmettre ce qui vient de lui d'une façon puissante et non pas d'une façon, détériorée. Parce qu'on peut avoir à la source quelque chose de bon, hein, n'est-ce pas, comme par exemple de l'eau. L'eau de la source est bonne, mais elle passe par une canalisation qui est un peu détériorée. Et ça arrive, le résultat n'est pas formidable. Il faut que le résultat s'améliore. Alors, même dans votre vie, venez à la source et laissez Dieu être Dieu. Donc, il veut te faire reposer. Quoi que tu fasses, quoi que tu aies à faire. Lisons ensemble Hébreux, chapitre 4. On va voir quelque chose concernant le peuple d'Israël. Il n'est pas rentré dans le repos parce qu'ils avaient dans leur cœur de la rébellion. Hébreux, chapitre 4. Hébreux chapitre 4, versets 7 à 9. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et en fait, c'est le repos de ta foi. Dieu te parle, tu fais ce que Dieu te demande, et en attendant que la chose que Dieu t'a demandé, t'a montré, se manifeste, eh bien, tu entres dans le repos. On entre dans le repos. On doit vivre, et c'est ce que le Seigneur veut. Moi, j'aime la volonté de Dieu parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est excellente, parce qu'elle est agréable. Dieu veut que tu vives dans le repos. Quoi que ce soit que tu aies à faire, que ça soit ta vie de tous les jours, que ce soit le fait de servir Dieu, quelles que soient les choses, que tu le fasses avec un repos dans ton cœur, non pas une agitation, non pas un stress, non pas une contrariété, parce que des fois on fait des choses et on n'a pas vraiment envie de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Parce qu'on ne se sent pas bien au-dedans de nous-mêmes. Dieu veut que tu te sentes bien et que tu fasses tout ce que tu as à faire avec joie. Ça doit nous donner de la joie et non pas du désagrément. Dire, oh, aujourd'hui, il va falloir encore que je fasse ceci ou que je fasse ça. Moi, il y a une chose que je n'aime pas du tout faire et je remercie le Seigneur parce que je n'ai jamais à le faire. C'est repasser. Vous savez, repasser le linge. Et je, oh, quelle horreur. On est en train de se battre avec le fer à repasser parce qu'il y a toujours des faux plis, avec le linge parce que il se met pas comme il faut. Le linge qui se recroqueville comme ça, on l'avait bien tendu, on se dit je vais repasser et au moment où on met le fer, il se met bizarrement. Alors après, c'est quoi ce truc là? Et puis quand on a une grande famille, ben, il y a beaucoup de linge à repasser. Rien que pour ça, mais pas seulement pour ça, je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé en Afrique. J'ai plus besoin de repasser le linge. Mais même, des fois, on doit faire ce genre de choses. Mais tu peux dire à Dieu, mais Seigneur, donne-moi du repos par rapport à cela. Pourquoi est-ce que ça doit être une corvée? Ça doit être une corvée. Moi, j'ai du repos par rapport à cela parce que Dieu m'a donné une autre solution. J'ai plus besoin de repasser mon linge. Il y a quelqu'un qui le fait à ma place. Et très bien, en plus. Amen. Dieu veut que tu sois dans le repos. Si tu n'aimes pas aller faire les courses, Dieu va te donner du repos et de la joie par rapport au fait d'aller faire tes courses au supermarché ou de faire n'importe quelle autre chose. Et quand Dieu a la place dans ta vie, quoi que tu aies à faire, tu le feras vraiment avec de la joie, avec de la paix. Tu seras dans le repos quand tu penseras à demain, quand tu penseras à la semaine prochaine, parce que tu sais que celui qui a été capable de diriger tes pas jusqu'à aujourd'hui, il sera capable de les diriger encore demain et à la semaine prochaine. Il t'a pas amené jusqu'ici pour te faire retourner en arrière. Il est un Dieu fidèle. Et on voit dans le psaume 91, on va lire ensemble. Vous dites 91 ou 91? Ah, d'accord. Au Burundi, ils disent... Comment? Et Belges et Burundais aussi. Oui. Les Suisses, ils disent même octante. Alors, psaume 91... Moi, j'aime 91. Psaume 91 qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et vous pourrez lire la suite de ce psaume à la maison. Mais une chose est sûre, c'est que le fait de demeurer dans le Seigneur va t'amener dans le repos. Et la suite de ce psaume parle des circonstances. 1000 qui tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. La flèche qui vole de jour, le filet de l'oiseleur. Toutes ces choses-là auxquelles nous avons à faire face continuellement. Continuellement. Et ceux qui servent vraiment le Seigneur, ils ont à y faire face 10 fois plus que les autres. C'est pour ça que vous devez vraiment aimer vos pasteurs. Parce qu'ils font face des fois à des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont besoin de votre amour. Ils ont besoin de votre affection. Amen. Bien sûr qu'ils comptent sur le Seigneur. Bien sûr qu'ils demeurent dans le Seigneur. Bien sûr qu'ils trouvent du repos. Amen. Et quand on se confie dans le Seigneur, quand Dieu a cette place en nous, non seulement on trouve le repos, mais en plus de ça, on voit sa délivrance. Parce que la délivrance, ça fait partie de notre salut. Il y a 5 choses qui font partie de notre salut, qui sont obligatoires pour chacun d'entre nous. 5 choses. La délivrance, la sécurité, la protection, la guérison et la santé spirituelle. Ça, ce sont des choses qui font partie de notre salut. Et quand tu demeures à l'abri du Très-Haut, ces 5 choses se manifestent. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on rentre dans un endroit qui est sombre, on allume la lumière, au moment où tu appuies sur le bouton, la lumière vient. Tu vas pas appuyer sur le bouton de la lumière, l'interrupteur, et te dire, bon, peut-être que dans 5 minutes, ça va venir... ou dans 1 heure, tu appuies, c'est là. De la même façon, comme tu es sauvé, tu demeures en lui, tu te retrouves dans n'importe quoi, tu appuies, c'est là, parce que c'est à toi. Et on a vraiment besoin de savoir et de comprendre qui nous sommes en Christ. Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui veut que nous vivions dans son repos. Il y a des personnes qui se disent, oh là là, moi, je n'ai pas vraiment envie de connaître la volonté de Dieu parce que si ça se trouve, il va m'envoyer en Chine et j'ai pas envie d'aller en Chine parce qu'en Chine, il y a des Chinois. J'ai entendu comme ça l'histoire d'un jeune homme. Je le connais pas, hein, c'était un jeune américain. Il s'est converti quand il avait peut-être 13 ans ou 14 ans. Et vraiment, il aimait Dieu, il avance dans le Seigneur. Mais il avait une crainte dans son cœur. Il avait une crainte et sa crainte, c'est « J'espère que vraiment Dieu ne va pas m'envoyer en Chine. » Parce que si Dieu m'envoie en Chine, je pourrais pas y aller. Et vraiment, le diable a joué avec ça, vraiment profondément. Après, il est parti à l'école biblique, et après, il est revenu donc chez lui. Il était dans son église, et au bout d'un moment, il a laissé tomber le Seigneur. Il a quitté l'église, il a tout arrêté parce qu'il sentait vraiment cette inquiétude, cette angoisse par rapport au fait d'aller en Chine. Et puis quelques années après, il est revenu à Dieu. Vous savez, on revient toujours à Dieu. C'est normal. On connaît le chemin de la maison. Enfin, je dis moi, je me mets pas dedans, je suis jamais partie. Alors, il revient au Seigneur, et puis vraiment, il se repent de tout son cœur, et il dit, Seigneur, d'accord, je vais aller en Chine. Et vous savez ce que le Seigneur lui a répondu ? J'ai jamais prévu que tu ailles en Chine. Quand Dieu veut quelque chose pour nous, il va mettre en nous le vouloir et le faire. Et sa volonté est bonne. C'est pas quelque chose qui va nous ennuyer. C'est pas quelque chose qui va nous pénaliser. Quand tu donnes à Dieu et que tu fais ce qu'il te demande, tu ne perds rien, tu gagnes tout. Vous allez me dire, oui, mais Jésus a dit que si nous voulons être ses disciples, alors nous devons renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et tout abandonner. Mais bien sûr. Mais tu abandonnes des choses qui ne sont pas extraordinaires pour recevoir à la place des choses qui sont extraordinaires. Une vie surnaturelle, une vie de gloire, une vie de miracle, une vie de bénédiction, une vie de provision, une vie où Dieu est là tout le temps avec nous 24 heures sur 24, ça en vaut vraiment la peine. Amen. Ça en vaut vraiment la peine. Donc le repos dans cette dimension, c'est vivre dans la présence de Dieu, vivre sous sa protection, vivre en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la vie de Jésus. C'est un passage que j'aime beaucoup, moi, personnellement. C'est Marc chapitre 4. Quand on voit Marc chapitre 4, alors Marc chapitre 4, on voit Jésus qui se trouve dans un bateau. Il est en train de servir le Père. Il est en train de faire la volonté du Père, passer de l'autre bord. Et tout à coup, il y a une énorme tempête qui se lève. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de se diriger vers un endroit où il y a un homme qui est possédé de plus de 2000 démons. Et les démons, quand ils voient que Jésus est en train de venir, eh bien, ça leur fait peur. Et pour essayer d'empêcher de Jésus de venir, ils vont manifester cette tempête qui sera sur le lac. Donc, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Pourquoi est-ce que Jésus dormait ? C'est parce qu'il était en sécurité, parce qu'il était dans le repos. Il savait qu'il était en train de faire ce que le Père lui demandait et il pouvait y avoir cette tempête qui était en train de se lever. Ça ne lui disait rien. Parce qu'il savait que ça ne pouvait pas l'atteindre. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui vivait dans la présence du Père. Moi, souvent, je fais cette prière, je dis, Seigneur, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que tu communiquais avec le Père quand tu étais sur cette terre. Quelles étaient les choses que tu lui disais ? Comment est-ce que tu priais le Père ? Comment est-ce que le Père te manifestait cet amour. Je dis souvent, j'aimerais vraiment savoir. J'aimerais vraiment avoir une lumière sur cette relation que tu avais avec le Père. Parce que nous, les êtres humains, souvent, on prie des fois même pour rien dire. N'est-ce pas? Vous avez pas remarqué? En tout cas, en Afrique, c'est souvent comme ça. Oh Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. le Seigneur du ciel, il doit se dire, qu'est-ce qui se passe là? Dans le nom de Jésus. Oui, tu es le Dieu trois fois saint. Je te bénis dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du charabia. C'est du charabia. Mais imaginez, essayez ou demandez. Si vous savez, il y a une curiosité qui n'est pas bien. Quand tu essayes de savoir ce qui se passe dans la vie des autres, ça, c'est pas bien. C'est une curiosité malsaine. La Bible nous dit de nous occuper de nos propres affaires et de nous aimer les uns les autres. Pas de t'occuper des affaires du voisin. Parce que quand tu t'occupes des affaires du voisin, t'as plus le temps de t'occuper des tiennes. Donc, par contre, il y a une curiosité qui est vraiment selon Dieu. Je voudrais savoir comment Jésus priait. Je voudrais savoir ce qu'il disait. Et je suis sûre que c'était pas du charabia. Je voudrais savoir ce qui se passait entre le Père et Jésus quand il était sur la terre. Et non seulement je voudrais le savoir, mais j'ai le droit de le savoir. Parce que comment est-ce que Jésus pourrait nous dire « Tout ce que j'ai fait, vous allez le faire aussi ». Ok, il y a des choses, on sait, mais ta relation avec le Père Jésus, moi, je ne sais pas. Je veux ça. Je veux ça. Et ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que si Jésus n'avait pas peur, alors que la tempête était énorme, c'est parce qu'il avait une relation avec le Père, parce qu'il était dans le repos. On va accélérer un petit peu et on va passer dans le troisième point qui est vraiment très lié au deuxième point. Donc c'est pour ça que on peut l'aborder. C'est la paix. On revient dans le psaume 23, verset 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des eaux paisibles, dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. C'est-à-dire qu'il est un Dieu de paix, un Dieu de paix. Notre paix ne doit pas venir de ce qui nous entoure. Vous savez, il y a une paix naturelle et c'est normal. Quand le pays est en paix, on est en paix. Quand la situation économique est bonne, on est en paix. Quand les gens s'entendent bien entre eux, on est en paix. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à la maison, s'il y a des secousses ou s'il y a de la paix. Donc si les choses se passent bien, vous avez une paix et une sérénité. Et ça, c'est une paix humaine qui est bonne, on ne va pas dire qu'elle soit mauvaise. Mais au-delà de la paix humaine et naturelle, il y a une paix qui vient du ciel. Et quand tu es dans cette relation avec ton Père, tu sais comment marcher dans cette paix. Cette paix qui porte un nom. Cette paix, c'est Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5, nous montre que il est le prince de notre paix. Maintenant, comme je vous le dis, il y a une paix naturelle et on l'apprécie. Mais ce n'est pas le prince de notre paix, la paix naturelle. C'est-à-dire que, au-delà des circonstances bonnes ou mauvaises, il y a Jésus qui va prendre plus que le relais, mais qui va nous communiquer une paix qui surpasse toute intelligence. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que Jésus est le prince de ta paix? Vous savez, on parle de relation. Parce que Dieu attend de nous un certain nombre de choses. Le fait de marcher dans la foi, le fait de nous consacrer à lui, le fait d'être efficace pour son royaume. Et quand on y pense comme ça, c'est vraiment une énorme responsabilité. On se dit, mais moi, je ne sais même pas comment je vais pouvoir faire ça. Maintenant, s'il est vraiment au centre de ta vie, s'il est Dieu dans ta vie, tu pourras faire ça et même plus encore. Donc, le domaine de la paix, c'est tellement important parce qu'il y a tellement de gens qui sont troublés, à tort ou à raison, parce qu'on peut être troublé par différentes choses. Et même si on est troublé à tort, ça veut dire que quelque part on est affaibli ou qu'on est malade, parce qu'il y a des différents types de maladies. Il y a des maladies physiques, il y a des maladies au niveau de l'âme, et parfois il y a même des maladies spirituelles. Il y a des gens qui sont malades spirituellement parlant. Et si tu es malade dans ton âme, dans tes émotions, tu seras peut-être plus facilement troublé. Mais si Jésus est le centre de ta vie, s'il est le prince de ta paix, eh bien, personne, rien ne pourra t'affecter. Comme il le dit d'ailleurs dans Jean, chapitre 14. Vous savez, quand on lit Jean, chapitre 14, c'est quelques heures avant que Jésus ne soit arrêté pour être livré, et il y avait beaucoup de troubles. Le monde spirituel était troublé et les apôtres qui étaient là, ils le ressentaient, parce que vous savez, on ressent des choses et c'est normal. Et Jésus dit au verset 1 que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Au verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Seigneur dit, je vous donne ma paix, je te donne ma paix. Et toi, si tu es troublé, tu es là, tu dis, non, je garde mes problèmes. Vous savez, parfois, moi, je sais que j'ai eu cette tendance à être comme ça. J'ai eu cette tendance, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dois être tellement troublé. Je me sens obligé d'être troublé. Des fois, on est un peu bizarre, n'est-ce pas? Je me sens obligée d'être troublée, parce que si je ne suis pas troublée, ça veut dire que c'est pas si grave, et que si c'est pas si grave, Dieu n'a pas besoin de s'en occuper. Alors des fois, moi j'étais comme ça avant, maintenant plus trop, je travaille là-dessus bien sûr, mais je devais attiser le trouble dans mon cœur, dire, tu vois Seigneur, c'est grave, regarde ce que ça fait. Et c'est tout à fait, d'abord c'est complètement stupide déjà pour commencer. Et c'est pas ça qui va faire que Dieu va agir ou pas agir. Il est un Dieu de paix. Il veut te faire reposer dans de verts pâturages et il veut te diriger près des eaux paisibles. Il est un Dieu de paix. Il ne donne pas la paix comme le monde la donne. La paix que le monde donne, elle est liée aux circonstances. Si les circonstances sont bonnes, tout le monde se réjouit. Si les circonstances sont difficiles, tout le monde est abattu. Et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 1. Je sais plus si c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens, on va regarder. Mais il dit la chose suivante. Du fait qu'on a le ministère de l'Esprit, eh bien, on ne perd pas courage. Je sais pas si c'est 2, je vais quand même pas vous dire des bêtises. C'est 2, hein. Moi, quand il y a 1 et 2 lettres, j'ai toujours tendance à hésiter. 2 Corinthiens chapitre 4, nous sommes au bénéfice d'une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Ce Dieu de paix, il est pas seulement à côté de nous, mais il est en nous. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et je vous assure que on a appris, entre guillemets, à vivre d'une certaine manière, parce que certains d'entre vous, vous venez, comme moi d'ailleurs, de familles qui n'étaient pas converties. Donc on a vécu peut-être dans le chaos, dans les difficultés, et il y a des choses qui nous ont parfois blessés et beaucoup secoués. Mais ce qui est passé, on ne peut pas le changer. On a vécu avec certains principes, on a essayé de se débrouiller comme on pouvait, et des fois très mal. Mais aujourd'hui, tu as un Dieu et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Donc, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse-le prendre la place et tu auras une puissance et une qualité de vie bien meilleure. Aucun problème avec le fait de marcher dans la foi. Parce que Dieu veut que nous marchions dans la foi. Mais quand on est troublé, c'est difficile. Et quand on est troublé et que c'est difficile, on se sent condamné. On se sent bon à rien. Alors que si on apprend à vivre cette relation avec Dieu, petit à petit, parce que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, on pourra se tenir comme Jésus devant le Père, dans cette relation avec le Père. Si Jésus a dit, le Père vous aime parce que vous avez cru que je suis sorti de moi, que je suis sorti de lui, pardon, ça veut dire que le Père nous aime. Le Père nous aime. Et nous, dans ce monde qui est troublé, nous avons besoin de le voir. Nous avons besoin de le comprendre et nous avons besoin de tirer de cet amour la force dont nous avons besoin jour après jour. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour tous ces frères et sœurs qui sont ici. Je prie pour cette Église, afin qu'ils puissent grandir dans cette connaissance de la marche avec toi par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu communiques la paix, tu communiques ta présence dans les cœurs même, tu donnes du repos à chaque personne, parce qu'à chaque problème, il y a une solution, à chaque adversité, il y a une victoire. Merci pour le nom de cette Église qui est victoire en toi, Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci parce que tu les aides. Tu leur montres le chemin. Tu leur montres comment marcher dans ta victoire. Parce que c'est vrai que tu nous demandes de marcher dans la victoire, mais parfois on ne sait pas trop comment faire. Mais toi, tu sais le faire. Et tu veux nous montrer. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci de consoler. Merci d'encourager. Merci de fortifier chaque personne et de les aider à aller plus loin avec toi. Merci, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup, gloire à Dieu. Amen. Laissez Dieu être Dieu et entrer dans son repos. C'est une bonne parole, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.